pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Je m'appelle Magnus Nielsen, je suis 32 ans. Et ici, c'est mon restaurant, Faviken Magasinet, dans le nord de la Suède, à peu près 500 km au nord de Stockholm. Donc, l'abattement où il est le restaurant, c'est un bâtiment tout rouge, qui est la couleur traditionnelle de la région. Et c'est construit dans un tronc d'arbre.
Hello. Are you guys all good?
Bonjour à toutes et tous. Attention, l'histoire que je vous raconte en ce dimanche va vous donner la chair de poule. Ça se passe au nord de la Suède, pas très loin du cercle polaire, avec des températures qui descendent jusqu'à moins 35 en hiver. Il y a des paysages fous, des montagnes érodées, des lacs, des forêts. Et au milieu des champs, une ancienne gorge, une ancienne grange à Orge du 18e siècle, où l'on accourt du monde entier pour vivre une aventure culinaire unique. Un menu vespéral dédié à toutes les offrandes de la nature. On y déguste, au coin du feu, des plats préparés de façon brute et naturelle avec les gibiers des collines, les poissons des lacs, les Saint-Jacques de la Norvège voisine, les baies, les plantes, les champignons des forêts, les légumes du potager biologique. Bienvenue à Faviken Magasinet, l'un des restaurants gastronomiques les plus cotés du moment. Son chef est devenu une véritable food idol, une star sur la scène gastronomique mondiale. Il nous fait l'honneur d'une petite visite dans le studio dont on va déguster. Et je peux vous dire que c'est un voyage. Je l'ai fait pour descendre de la Laponie suédoise. Bonjour Magnus Nielsen.
Bonjour.
On est très très heureux de vous accueillir dans notre studio pour une émission en direct. Merci beaucoup. Alors quand on vous regarde, on devine un peu que vous êtes suédois avec vos yeux bleus, vos longs cheveux châtains qui vous donnent un petit côté viking. Je sais, c'est un cliché.
Vous parlez de moi, François
Régis, c'est ça? Non, là je parlais de votre voisin de gauche, Elvira. Vous avez 32 ans, 2 étoiles au guide Michelin et vous venez de publier une somme impressionnante, vraiment, le mot n'est pas faible, sur la cuisine nordique. Un gros pavé aux éditions Faydon. The Nordic Cookbook, c'était la version anglo-saxonne qui a eu beaucoup de succès lors de sa sortie il y a un an. Il sort en français ces jours-ci sous le titre « La cuisine des pays nordiques ». Je peux pas le soulever sinon je vais me faire mal au bras. Et vous n'êtes pas venu les mains vides, Magnus Nielsen, puisque vous nous avez préparé un saumon gravlax à la maison. Saumon gravlax, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, bonne nouvelle, notre invité Magnus nous en a cuisiné un magnifique et il va nous expliquer The Heart of Gravlax Salmon, l'art du saumon gravlax dans quelques instants. Vous êtes prêts?
Oui.
Il y a également à vos côtés, alors vous parlez français, puisqu'on va voir que vous avez un peu appris la cuisine, un peu beaucoup même, en France, chez des grands chefs. Et par sécurité, juste comme ça, au cas où, il y a Pascal Fougère, bien sûr, pour la traduction simultanée. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Il y en a une qui n'a peut-être pas besoin autant que moi de cours de cuisine suédoise, qui devrait d'ailleurs apprécier à sa juste valeur le saumon gravlax de Magnus Nielsen. C'est Elvira Masson, bonjour.
Oui, bonjour à tous. Hey, son, welcome, Magnus.
Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Juste bienvenue, tout simplement.
C'est gentil ça. Ouais. Papa, non, je suis français, maman suédoise.
Maman suédoise, donc je suis particulièrement heureuse d'être là avec vous tous aujourd'hui.
Et au menu?
Au menu, bah moi j'ai feuilleté le bouquin évidemment, ça m'a pris un temps fou parce que comme vous le disiez, il est copieux. Outre les différents porridge, grotte, boulettes de viande, lax pudding, j'étais très heureuse de retrouver une madeleine d'enfance qui est un gâteau aux épices. C'est pas un pain d'épices à la française, c'est vraiment autre chose. Je vous dis comment on le prononce en suédois, ça vous ouais. Mieux que pepparkaka.
Mieux que pepparkaka. Oui. Magnus, une petite question, est-ce qu'elle a un bon accent?
Oui.
Oui. Ah, bonne nouvelle.
Une mauvaise syntaxe, mais un accent correct peut-être.
Très bien. Eh bien écoutez, c'est parfait. En notre compagnie également ce matin, notre chroniqueuse vigneronne Sylvie Augereau, bonjour.
Bonjour, moi je sais seulement dire school.
Ben c'est pas mal. Ben oui, effectivement, et c'est de circonstance puisque on va quitter avec vous le nord de l'Europe et on emmènera Magnus Nielsen dans une autre contrée. Et peut-être que Magnus a quelques accointances avec ce pays.
Je pense qu'il y serait heureux en tout cas.
Un petit indice?
Un petit indice, ils font du vin depuis beaucoup plus longtemps que nous.
Ah! C'est possible.
C'est possible.
Eh ben, on va voir ça. J'ai ma petite idée, mais on garde le suspense en régie Michel Billou avec Mathieu Alléon et Dimitri Gronoff, Nadia Chougui pour la préparation, l'animation de notre page internet. C'est pas Mathieu Alléon, c'est évidemment Mathias. Désolé, Mathias. Mathias, d'ailleurs, qui nous confiait qu'il adorait la Suède. Il y va dans 15 jours. Il aime beaucoup la Suède. Djoubaka pour la programmation musicale. Si, comme Elvira, vous avez un petit côté viking, confiez-nous vos souvenirs et vos secrets de cuisine sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com sur Twitter avec le mot-clé on va déguster. Allez! On plonge tous ensemble dans l'univers arctique de Magnus Nielsen.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Cher Magnus, juste avant notre voyage dans les pays du Nord, un petit détour sucré avec Elvira Masson qui vous a apporté un cadeau.
Petit cadeau. J'ai fait un détour par l'Alsace. Il est 11h et quelques.
Qu'est-ce que vous faisiez en Alsace? Vous voyagez à Strasbourg?
Je suis allée rendre visite à un pâtissier, figurez-vous. Voilà.
On peut avoir son nom?
Il s'appelle Thierry Mulot.
Ah bah oui,
on le connaît.
Grande référence de la pâtisserie alsacienne.
Grand pâtissier. J'ai posé la question à Pierre Hermé, parce que j'allais à Strasbourg. Je dis, qui fait le meilleur kouglof? Et Pierre Hermé m'a répondu Thierry Mulot, ce qui a priori est un gage de qualité.
Ouais.
Et pourquoi je vous ai apporté ce kouglof aujourd'hui? C'est parce qu'en Suède, il y a quelque chose qui se passe au cours de la journée, une espèce d'événement, une pause gourmande qui revient à intervalles réguliers. Ça s'appelle fika.
Oui,
et
fika, c'est important.
Très, très, très important.
Fika, c'est quoi en un mot, Magnus?
Fika, c'est un... C'est un tasse à café avec quelque chose à côté, entre le...
Entre les repas.
Entre les repas principaux.
Un petit encas en quelque sorte, un petit moment de dégustation.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'on sait que les Suédois boivent beaucoup de café, c'est ça?
Oui, beaucoup de café, beaucoup de brioche sucrée.
Beaucoup de café filtre.
Vous aussi, vous buvez beaucoup de café?
Non.
Ah,
en fait pas.
Il n'est pas un
café dans le matin.
Fait. D'accord.
Ouais.
Et donc pour vous changer du roulé à la cannelle et autres douceurs auxquelles vous êtes habitué, je vous ai rapporté ce kouglof. Alors c'est pas n'importe quel kouglof, il n'y a pas de mystère. Il est fait avec 200 g de beurre pour 300 g de farine. C'est ce qu'il faut. Parce
d'accord.
Que, il est très dense, avec beaucoup de mâche. On reproche parfois au kouglof d'être un peu une... Un peu une coquille vide, quoi, un peu racornie, donc on le trempe dans un sirop de sucre qui sert un peu de cache-misère. Et puis finalement, l'ami n'est pas si dense, il est trop alvéolé, un peu sécos. Et là, voilà, c'est un modèle du genre. Je sais
vous
pas,
le goûtez,
goûtez-le,
Magnus,
Magnus,
juste un tout petit
vraiment,
bout.
Je sais pas si vous en avez goûté beaucoup dans votre vie.
Mais
si,
Sylvie,
ça va tourner, ça vient, ça vient, ça vient.
Puis on a du monde aujourd'hui dans notre studio, je pense qu'ils veulent du kouglof aussi.
Mais c'est fait, ça circule
déjà. Il y a toute
la
communauté suédoise.
Un kouglof, ça va pas suffire. Et effectivement, c'est un modèle du genre parce que Thierry Mulot fait son levain lui-même, que la pâte est très travaillée, pas trop non plus. Il y a un temps de repos de plus d'une heure et demie, un temps de pointage, le moment où la pâte travaille aussi d'une heure et demie. Donc là, c'est vraiment c'est la perfection du kouglof, à mon sens.
Vous aimez ou pas, Magnus?
C'est très très bon.
Très très bon, vraiment. Et vous avez l'habitude de ces textures, car en feuilletant votre livre, votre magnifique livre, La cuisine des pays nordiques aux éditions Faïdon, quand on se tourne vers l'index, on constate effectivement qu'au mot brioche, il y a des dizaines et des dizaines de recettes de brioche, brioche à l'amande amère, brioche au safran de la Sainte-Lucie.
J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps.
Lucicate.
Lucicate.
Lucicate, d'accord. Brioche des îles Féroé à la cannelle.
Oui.
Avec d'ailleurs un goût particulier dans les pays nordiques pour les épices.
Oui. Et ça, c'est quelque chose qui vient de la histoire. On travaille beaucoup avec le cannelle, l'épice douce, le cardamome, des choses comme ça.
Et également
la Suède, c'est le pays du monde qui utilise le plus de cardamome.
Non.
Oui.
Ah oui, cardamome, c'est effectivement surprenant. Quand on sait que c'est une épice qui vient du sous-continent indien, c'est effectivement beaucoup utilisé en Suède, Danemark, îles Féroé, Finlande, Groenland, Islande, Norvège, évidemment Suède. Magnus Nilsson, vous avez fait des dizaines de voyages dans ces pays pour traquer, pour collecter, pour inventorier des produits, des recettes, des techniques de cuisson, des usages populaires de conservation. Il en résulte un livre incroyable, 767 pages, presque autant de recettes, ce qui est quand même assez considérable. Une encyclopédie d'ailleurs que vous avez illustrée avec vos propres photos de reportages et de paysages, parce que vous êtes aussi un photographe amateur.
Oui.
Et félicitations.
Merci. Hein.
Vos photos sont superbes. Et ce qui prouve d'ailleurs que vous avez visité tous les pays que vous évoquez. Combien de temps pour écrire ce livre?
Ça a pris à peu près 300.
Waouh, important effectivement.
Ouais.
Et pourquoi écrire? Se lancer dans un challenge, dans un défi culinaire aussi important.
Ça n'existe pas. C'est ça.
Ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas, le livre en cuisine nordique. Et à mon avis, c'est un des cuisines de la monde qui est le plus mal understood.
Comprise.
Mm-hmm. Ouais.
C'est une cuisine qui est, on pourrait le dire, caricaturée.
Oui, souvent. Passer beaucoup d'informations de la restaurant gastronomique en le pays nordique maintenant, comme Favik, mon restaurant, ou Noma en Copenhague, les restaurants comme ça, qui représentent pas très bon le vrai culture de nourriture de la pays nordique.
Mm-hmm.
C'est beaucoup d'informations sur le saumon gravlax, le hareng et le boulette de viande. Et
alors
c'est tout.
C'est vrai que c'est un peu les seuls. Alors, saumon gravlax, on va pas y échapper, rassurez-vous quand même à la maison, chers auditeurs. Mais c'est vrai que c'est un peu la trilogie des plats que l'on connaît. De la cuisine ouais. du Nord. Et vous dites d'ailleurs que les vrais responsables dans cette caricature de la cuisine nordique, c'est d'abord les livres de recettes
oui.
qui ont souvent présenté la cuisine nordique comme une pseudo-gastronomie. Il suffisait de parsemer comme ça ces plats de murs polaires ou d'airelles et tout de suite on avait une cuisine scandinave. Alors que c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça.
Oui, oui. Parce que c'est une région immense. C'est beaucoup de variations, beaucoup de climats différents, les cultures différentes, les choses qui donnent aussi une culture de cuisine qui est très variée.
Pourquoi vous n'avez pas commencé par un livre sur la cuisine suédoise, qui est votre propre pays, avant tout de suite d'étendre vos recherches culinaires sur un territoire qui fait quand même 3500 km2 ?
Ouais.
C'est considérable.
Non, parce que, en fait, au début, moi, je voulais faire un livre sur la cuisine suédoise. Mais le publisher, Faden, mm-hmm. pensait que c'était mieux avec un livre de la cuisine nordique. Et au début, moi, j'étais pas très contente avec ça parce que c'est aucune personne dans la région nordique qui ça regarde comme un personne nordique. On est suédois, on est danois, on est norvégien, etc. On n'est pas nordique.
C'est un peu comme si on faisait un livre sur la cuisine de l'Europe du Sud avec la France, le Portugal, l'Espagne, oui. l'Italie.
Oui.
Et en même temps, il y a des points communs, puisque oui. tous ces pays que vous avez parcourus...
Mais c'est ça qui est intéressant aussi, le point commun, le différence. Pour moi, c'est vraiment le bout de jeu avec le livre, c'est expliquer le point commun, mais aussi... qui fait la différence entre les pays et les régions.
Et le point commun, notamment, c'est le fait que le climat est extrême dans ces pays-là et que, du coup, beaucoup de techniques de conservation des oui. aliments ont
Surtout
été développées
dans
et inventées
oui.
dans l'histoire.
Oui.
Et ça, c'est effectivement une quête ethnographique, documentaire, absolument passionnante à la recherche de ces recettes. On va commencer juste par une petite recette.
Oui.
Parce que, pour montrer justement que la cuisine nordique, ce n'est pas que des desserts aux airelles et ce n'est pas que... on va voir d'ailleurs avec Elvira que les desserts, ça peut être aussi beaucoup plus compliqué. C'est également des recettes, parfois même un peu inattendues, fusion, résultat de rencontres historiques. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Magnus?
Donc...
Je reconnais ça.
Vous connaissez Elvira?
Col d'Olmar.
Exactly, col d'Olmar.
Ça veut dire quoi, col d'Olmar?
Ce sont des dolmas, comme le mot oui. turc de dolmas.
Voilà. Ah, vous en dites trop alors.
Oui. C'est ah, ça. Pardon, je vends la mèche.
Non, mais c'est origine turque, c'est ça?
Oui, oui,
je pense,
ça.
Oui, c'est
Racontez-nous,
ça.
Magnus.
En fait, dans la histoire, la Suède, c'est un pays qui a fait beaucoup, beaucoup de guerres.
Mm-hmm.
Presque partout en Europe.
Les Vikings, et oui, mais après?
Et après ça aussi. Mais, donc, c'était dans le 18e siècle.
Oui.
La Suède, elle était en guerre avec la Turquie.
Oui.
Et c'est pas fini très bien pour la Suède, mais il a pris quelques prisonniers de guerre.
C'est ça.
En Turquie, qui était le chef.
D'accord.
Qui est venu à Stockholm.
Pas bête.
Pas bête. Ils ont kidnappé le chef et ils lui ont extorqué ses recettes, c'est ça?
Oui. Donc, il a commencé à cuisiner sa cuisine turque à Stockholm avec les produits de Suède.
Mm-hmm.
Donc, la dolma de feuilles de vigne, le mouton, le riz, ça a venu un dolma avec du feuille de chou.
Oui.
Col, c'est chou.
Ouais.
Parce qu'à l'origine, on parle bien du dolmas, en fait, qui est cette espèce de petit rouleau de printemps turc, hein, j'oserais dire. C'est-à-dire vraiment une farce d'agneau et de riz enveloppé dans une feuille de chou. Et en Suède, la feuille de vigne a laissé la place au chou.
La feuille de chou.
Et c'est vrai que l'agneau, on mange pas trop de porc en Turquie, justement.
Non.
Vous avez plutôt utilisé du porc à la place de l'agneau, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on peut goûter?
Oui, voilà.
C'est beau.
Et on va mettre c'est un peu de ça aussi, c'est de la confiture d'airelle.
Confiture d'airelle.
Ça, c'est un peu comme les ketchup suédois.
Waouh.
Ça se mange avec beaucoup de...
On met là du Lingonsylt avec les col d'Olmar.
Magnifique.
En plus de la petite sauce brune.
Oui.
Les deux.
La sauce brune, c'est juste un jus de la cuisson, en fait, avec un peu de sirop.
Oui.
Oh, magnifique.
Expliquez-nous en quelques étapes comment on peut faire ces rouleaux de choux.
Donc on commence par faire comme un bouillie de riz avec un peu de lait.
D'accord.
Rice porridge.
On fait un rice porridge, d'accord.
Mmh. Et ça se mélange en froide avec du porc, un
oui.
peu de épices, de allspice.
Allspice.
Oui. De quatre épices en
de
fait,
quatre,
enfin, quatre ou cinq
ouais.
épices.
Ouais. Wow. Et c'est
ça. Ouais. Avec plaisir.
Et on finit par faire un rouleau avec un feuille de choux.
D'accord. Et le chou n'est pas cru, il est déjà blanchi.
C'est déjà blanchi.
D'accord.
Pour faciliter la formation d'un rouleau, en fait.
Oui.
Et après ça, c'est gratiné au four avec un pas mal de sucre, en fait.
Oui.
Et ça, c'est un côté un côté suédois aussi. On utilise pas mal de sucre dans la
dans le plat, en fait.
C'est parfois un reproche, d'ailleurs, qu'on adresse quand on ne connaît pas bien cette cuisine-là.
Ouais.
On peut trouver qu'elle est trop sucrée, qu'il y a un peu du sucre partout et que ce sucre uniformise le goût.
Ouais.
C'est parfois des reproches que j'ai entendus, moi.
Mais c'est souvent le contraste avec le sucre et sel en Suède.
Voilà, le côté. D'ailleurs, on va le voir avec le saumon gravlax dans quelques minutes. Vous m'en laissez un petit peu quand même, Sylvie, non, ça va?
J'aime bien quand même.
Oui.
Il y a des beaux amers aussi.
Ouais.
Une belle amertume. Ça vient de quoi, ça?
C'est les choux.
Le chou.
Ouais. Qui crée l'amertume. Et cette petite sauce aux érelles?
On en reprendrait bien. Ouais, c'est vraiment très bon.
On en reprendrait bien. Bon, et bah écoutez, c'est superbe. D'ailleurs, érelles, c'est incroyable le nombre de fruits, de baies que l'on peut récolter dans la forêt. Les Suédois ont une relation particulièrement intime avec la nature.
Where are we exactly?
So now we are about 5 kilometers away from Faviken, and we're just gonna sort of go into one of my mushroom spots.
Bon. J'ai eu la chance d'aller vous rendre visite, Magnus Nilsson. C'était il y a quelques jours dans votre restaurant Faviken Magazinette. Vous m'avez réservé une surprise. Un matin, vous êtes venu me chercher en voiture. On a fait quelques kilomètres par une magnifique journée d'automne. C'était splendide, lumière absolument éblouissante, du jaune, du rouge dans les arbres. Ça doit vous dire quelque chose, Elvira. Mais moi, c'était ma première fois, figurez-vous, au nord de la Suède. Des sous-bois aux parfums incroyables, des rivières vigoureuses. Vous m'avez fait découvrir vos mushroom spots, vos coins à champignons.
On a trouvé un seul champignon, je me souviens de ça.
Ne trahissez pas ça, car on va nous raconter justement cette. Vous allez nous raconter cette petite balade forestière.
Ah, here, so this is cranberries.
Oh.
Cranberries, closely related to the lingonberry.
Ce sont des baies très populaires
and,
qui poussent sur des sols humides.
Not super tasty.
Elles n'ont pas beaucoup de goût comme ça.
They go more tasty
mais elles sont beaucoup plus aromatiques quand on les fait surgeler. Il y a une lumière intense ce matin. C'est une lumière qui vient de côté et qui fait beaucoup d'ombre. C'est très difficile de distinguer les champignons.
Pied de mouton.
Pied de mouton.
Mais il est un peu trop gros.
So it's a mushroom that grows,
c'est un champignon qui pousse sous les sapins.
And it has a, it's quite pale,
il
you know,
est beige, avec des petits pics sous le chapeau.
The taste of that, it's
sa texture
meaty,
est assez viandeuse,
like,
un peu comme, chicken comme du poulet. Like
quite strong
il a beaucoup de goût quand on le fait sauter à la poêle.
Crowberry.
Yeah.
I don't know what it's called in French,
je ne sais pas comment on dit en français.
Like
ça ressemble un peu à la myrtille. C'est un petit fruit noir qui pousse sur des arbrisseaux qui ressemblent à des petits sapins. On les trouve souvent à côté des myrtilles.
And we can eat,
et on peut les manger crus
sure.
Oui.
It's not very tasty,
mais elles ont plus de goût quand on les cuisine. Les crowberries sont très juteuses.
Ok, but it's really juicy.
Yeah. Very juicy.
It's very elles ont une texture agréable. Ces traces dans le sol, c'est un élan, le plus grand cervidé du monde.
Okay.
Ces traces sont toutes fraîches. L'élan est un gibier très populaire en Suède, c'est une viande du quotidien. Pour beaucoup de gens, c'est bien plus commun que le bœuf.
What are you doing?
I'm checking my map.
Je suis en train de vérifier ma carte sur mon téléphone.
I think we should actually go down.
J'ai marqué mes coins à champignons sur la carte. Il faut aller, oui, plutôt par là.
Here you have a deer.
Oh, une crotte de daim.
So this is actually too old now.
Voilà un
set. This is a sack.
Oh, so nice.
Mais il est un peu trop vieux.
I think we'll keep this one.
On va le garder celui-là, car on n'a rien trouvé d'autre. Oui, normalement, je les aime bien un peu plus petits, mais ça va bien quand même. Ils sentent la forêt de manière très intense. Il y a des notes de sous-bois.
Oh, incroyable. Humus. Is it heavy?
C'est un beau spécimen, dense et lourd. On peut le mettre dans le panier.
So nice, the job is done.
Yeah, exactly.
En forêt avec Magnus Nilsson, c'était incroyable. Ce qu'on n'a pas précisé quand même à nos auditeurs, c'est qu'on avait quand même de l'eau jusqu'aux genoux.
Non,
presque. Et on a eu surtout au retour, quand vous conduisiez la voiture, une très très grosse frayeur.
Ouais.
On a presque fait une collision avec un élan.
Collision avec un élan.
Ouais.
Et je peux vous assurer que si vous aviez vu cet animal qui fait 2 mètres de haut,
non mais sans blague. Son menier pas large.
Ah non mais j'ai perdu un litre de sueur. Ça a quand même été. On était vraiment à deux doigts de le percuter. Ça a été incroyable. Ouais. Évidemment les champignons, vous y allez régulièrement comme tous les Suédois. Vous allez en forêt, vous ramassez non seulement des champignons mais des fruits, des baies. C'est quelque chose. C'est une activité quasiment quotidienne.
Oui, j'ai vu dans un journal suédois, ça fait quelques semaines maintenant, un article sur les hobbies les plus communs en Suède. Et en fait, le plus populaire hobby, c'est mushroom picking.
Le ramassage des champignons, la cueillette des champignons.
Donc c'est 25% de la population adulte fait ça au moins de 1 fois par an.
Et quand vous pensez quand même que Magnus Nilsson sort son smartphone avec ses mushroom spots qui sont indiqués sur une carte et il cherche la réception pour savoir mais où est-ce que j'ai trouvé mes plus grosses âmes, il faut reconnaître qu'on n'a pas été très chanceux hein, cette fois-ci. On a trouvé dans le panier, il y avait simplement 2 pieds de mouton, un cep.
Oui,
c'était rare.
Un cep qui est un peu trop grande et 2 pieds de mouton qui étaient hors de saison.
Et ça, j'ai pas la solution. Justement, comment en Suède, quand on ramasse des ceps, quelles sont les quelques petites façons de les cuisiner?
Oui, on fait. Moi, j'aime bien de ramasser le champignon en automne pour faire préserver pour l'hiver, en fait. Pour faire sécher ou peut-être pasteuriser en huile, des choses comme ça.
Pour les conserver.
Oui.
Et voilà. Comme ça, on peut en consommer effectivement en hiver quand il fait froid et que la neige couvre pendant 9 mois de l'année vos paysages, effectivement. Dans un instant, la leçon de saumon gravlax de Magnus Nilsson, les sucreries d'Elvira Masson et puis le vin, secret, surprise, de Sylvie Augereau. The Animals, non, Les Animals, c'est en français et c'est Hildebrand.
Je pue un peu, moi, je pue la sous mes poids, je suis pas mal, moi, l'animal. Je suis, je sens, je, moi, l'animal amant, remets la queue, montrez les dents. Tu prends la peau, les plis en suspens, tu prends tout ça, tu sens. Que nos instincts nous poussent à l'instant, tout s'éteint sous le temps. Viens, ni bien, ni mal. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Viens, là sous le voile. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Je suis, je vis et je suis ça mais aussi. Je vis par terre, paternoster. Et vu d'en bas, la vie ça vient comme on va. Tout dérisoire descend pour voir. Et si l'on sème les corps en avant, oublions bien les croix. Nul homme moral et meurt sans crevant, je ne veux voir que toi. Viens, ni bien, ni mal. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Viens, là sous le voile. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Aux étoiles, nature en fait lever une voile. Si toi aussi viens, suis donc avec audace, transpire en plein, sois-en fier. À force de classe, ils vont s'y faire. Viens, ni bien, ni mal. La vie c'est les animaux. La vie
So now we're standing in front of the Faviken.
Nous sommes devant le potager d'été de mon restaurant Faviken. Nous récoltons les légumes d'été, comme les petits pois, les poireaux, les betteraves, tous les légumes que nous cuisinons en été et en automne. Et l'automne approche, tous les arbres deviennent rouges et jaunes.
Can we enter? Yes, of course.
Oui, bien sûr.
Onions? Yeah, onions.
Beetroots?
Yeah, beetroots here.
Oui, là il y a des betteraves.
Horseradish.
Uh-huh. Horseradish is réfort.
Réfort, exactly. Blettes.
Oh yeah.
They are just sweet and
elles sont sucrées et tendres.
Oh, this is a Nero Cavallo.
Yeah, exactly.
Cavallo Nero, yeah.
Oui, c'est ça. C'est un chou italien.
Broad beans.
Des fèves aussi.
Yeah. Quite a lot of broad beans.
On actually. A beaucoup de fèves.
Can I leave us? That Elias is doing the vegetables.
Elias est en charge du potager. Il est en train de cueillir ce que nous allons servir ce soir.
Vill du berätta lite mer om vad du ska plocka idag, eller?
Ja. Jag kommer plocka lite av de här sparrisblomsterna, skotten, ärtskott.
Il est 11h30 à l'horloge de France Inter. C'est la leçon de cuisine de Magnus Nilsson, le chef suédois de Faviken Magasinet, auteur de La cuisine des pays nordiques, un livre déjà référence aux éditions Faidon. Il faut imaginer, chers auditeurs, le spectacle qu'il y avait devant nous. Il y a un restaurant, une grange avec une façade rouge, juste à côté, un potager, entouré de lacs, de forêts, avec les lumières de l'automne. C'était une carte postale.
Le premier village est à combien de temps?
C'est quand même assez isolé. Hein.
Ouais, c'est à peu près 20 kilomètres.
C'est 20 kilomètres.
Ouais.
Bon, il y a un petit voyage hein, de Paris ou de France pour aller là-bas. Mais en tout cas, quel spectacle incroyable. Et vous avez effectivement cette culture d'utiliser dans votre cuisine, au restaurant, tous les soirs, les ressources, les légumes de votre potager.
Oui. Et pour moi, ça c'est c'est deux choses en fait. C'est ce que je fais dans les week-ends quand je ne travaille pas. C'est travailler au potager. Ça, j'aime vraiment beaucoup.
Vous aimez mettre les mains dans la terre.
Voilà. Mais c'est aussi quelque chose qui donne un contrôle des produits qu'on ne peut pas avoir si on achète les légumes.
Inutile de préciser que c'est cultivé de manière organique, de manière biologique, bien entendu.
Oui.
Beaucoup de ressources également que l'on peut déguster le soir. Alors évidemment, votre restaurant est fully booked, complètement complet, puisque vous ouvrez les réservations seulement deux fois par an.
Oui.
Et vous avez, je crois, 1800 réservations en 5 minutes. Votre restaurant est devenu un phénomène dans le monde entier. J'ai eu la chance de m'y attabler. Il y avait à côté de moi un couple d'Américains de Memphis. Il y avait des Japonais, il y avait des Belges. Pas beaucoup de Français, d'ailleurs, qui viennent chez Faviken Magasinet.
Non, on a peut-être un table de Français chaque deux semaines.
Ça va changer.
Ouais.
Parce que, il faut quand même préciser que vous avez une relation très particulière avec notre pays.
Oui. En fait, j'habitais à Paris pendant 4 ans.
Qu'est-ce que vous y faisiez?
Je travaillais à La Strance, à Paris.
Le restaurant de
Pascal Barbeau.
Vous avez raison, Sylvie, tout près d'ici. Vous savez que La Strance, c'est rue Beethoven.
C'est 200 mètres d'ici.
C'est 200 mètres d'ici. Alors, rappelons que c'est Pascal Barbeau, 3 étoiles au guide Michelin. Et vous avez appris quoi là-bas?
J'ai appris beaucoup de choses, mais la compréhension de ce que c'est un produit exceptionnel. Ça, c'est la plus importante chose que j'ai appris, en fait, chez Pascal.
Pascal Barbeau est effectivement un souci du produit d'exception absolument incroyable. Et ça, quand on fait une expérience, un dîner chez Faviken, on s'en rend également compte. Toutes les ressources sauvages, les gibiers, j'ai eu l'occasion de manger. Allez, un mot d'un plat qui était absolument magnifique, très émouvant, qu'on mange comme ça avec les mains. Une Saint-Jacques de la Norvège, juste voisine. Un énorme steak de la mer, mais que vous cuisinez de manière un peu particulière.
On prend la coquille dans sa coque, en fait, on met ça juste sur le feu de bois dans la cuisine. C'est un feu de bois de arbre de bouleau et genévrier.
Et genévrier.
Oui, donc ça gagne un côté un peu fumé. Donc on ouvre la coquille sans chaque mi-cuisson, on élève tout ce qu'on ne mange pas et on laisse la muscle de la coque. Et ce qu'on ne mange pas, on utilise pour faire comme un bouillon.
Mais extrêmement concentré.
Oui, mais en fait, c'est juste le bouillon naturel.
C'est pas réduit, on n'a rien acheté, c'est pas de sel, pas de poivre, rien.
Il faut préciser que votre cuisine est naturelle. Vous n'utilisez pas d'ustensiles technologiques sophistiqués. Il y a un barbecue énorme au milieu de votre cuisine. Vous avez un four à vapeur. Ouais. Vous êtes dans une cuisine finalement, j'ai pas envie de dire brute parce que ce serait la caricaturer. Il y a énormément de finesse qui se dégage évidemment de vos produits bruts. Mais vous êtes en tout cas dans un minimum ou dans une cuisson, dans des apprêts très précis. Ouais. Mais qui se voit pas beaucoup.
Et tous les cuissons chez nous, c'est les cuissons de chaleur directe. On n'a pas de circulateur, on n'a pas cuisson très lente au four, les choses comme ça. C'est légumes à la vapeur, viande sur la barbecue et le reste sur la piano en fait.
Le piano, absolument. Ouais. Vous avez également une sensibilité particulière au vin. Je me tourne vers Sylvie Augereau.
C'est pour puisque ça que je suis
là. Vous avez un diplôme de sommelier.
Oui.
Mais moi, j'avais jamais vu un chef qui avait un diplôme de sommelier.
Ah oui.
Alors, je suis très contente. School.
School. Alors, ouais. Sylvie.
Mais oui, parce qu'en France, on a plutôt l'habitude de les considérer comme des coefficients, les vignerons, dans les restaurants. Voilà. On a même eu un grand chef sur scène à Omnivore qui nous avait dit ça.
On a hâte de savoir, Sylvie, où vous nous emmenez. C'est une petite destination surprise qui va peut-être dire quelque chose à Magnus Nilsson. Et pour cause, vous avez jeté un œil à sa wine list, sa carte des vins.
Que j'ai beaucoup aimé.
Bien, merci.
C'est vrai que j'ai bu des vins absolument incroyables.
Et sur cette carte des vins, ça va pas être un bon indice pour vous parce que personne ne le connaît. Mais sur cette carte des vins, en fait, il y a un vigneron qui ressemble à Magnus.
Ah, qui ressemble
cheveux longs de viking. Ouais.
Qui ressemble, vous voulez dire, à un bassiste dans un groupe de heavy metal.
C'est un peu ça, surtout quand il a bu. Et il boit.
Et il boit. De qui s'agit-il alors? Où va-t-on plutôt?
Où va-t-on? Alors, on va dans un pays, le pays du vin. Voilà.
Ce n'est donc pas la France.
Des gens qui faisaient. Non, oublié. On était à l'âge des cavernes quand ils faisaient du vin.
C'est pas l'Italie non plus?
Non,
c'est pas la Suède.
C'est un pays de chasseurs et de cueilleurs aussi. On a recensé là-bas 6330 variétés de champignons, 738 variétés de lichen, 1703 variétés d'algues, 675 types de mousse.
Ça ressemble à un paradis pour Magnus Nilsson, ça.
Voilà. C'est pour ça que je pense à lui.
Vous avez une petite idée, Magnus?
Oui.
Il sait.
On continue le suspense ou il nous le dit?
Allez, il nous dit.
Où est-ce qu'on va, à votre avis?
Georgia.
Georgie.
Ouais. Absolument. Et Magnus m'a confié tout à l'heure qu'il avait envoyé son sommelier là-bas. Mmh. Il est revenu dans quel état?
Très contente parce qu'il a trouvé ses vins en fait.
Et très fatiguée, non?
Oui. Non mais Georgie, c'est un pays très intéressant au niveau de vin parce que c'est un pays avec une culture de vin qui est vraiment ancienne.
Millénaire, voilà. Par contre, ils savent toujours pas comment on fait.
C'est vraiment le premier pays de l'histoire à avoir fait du vin.
A priori, c'est le premier, ou en Arménie voisine, voilà.
C'est
on va pas se disputer.
C'est le berceau du vin, en tout cas.
Ouais, c'est le berceau du vin. Et c'est aussi, c'est une patrie de vin. Tout le monde est vigneron là-bas. Et on ne sait pas depuis quand, quand on demande aux gens depuis quand ils sont vignerons, depuis toujours. Tout le monde, c'est un pays d'accueil. Et c'est aussi pour ça que tout le monde avait un peu son carré de vigne, un hectare et demi minimum, voilà. Et c'est un pays, nous alors on arrivait là-bas quand même, faut que je vous le raconte.
Oui, c'était il y a quelques années.
À l'aéroport, c'est il y a un an et demi, mais je m'en suis toujours pas remise. Et à l'aéroport, le douanier, on lui tend le passeport, il nous rend mon passeport avec un sourire et une bouteille. Il me dit « Welcome to Georgia ».
Cadeau de bienvenue en Georgie, une bouteille
alors
du douanier.
En France, on n'a pas le droit de transporter du vin, juste. Voilà.
Ouais. Bon. En France, on
moi, j'ai un douanier très sympa,
donc
bonjour monsieur Coiffard. Mais généralement, c'est plutôt les ennemis des... Enfin, c'est pas forcément les amis des vignerons.
C'est vrai.
Voilà. Et en Géorgie, ce qui est, enfin, ils ont préservé tout ce côté paysan de la vinification. Ils continuent à vinifier dans des amphores qui aujourd'hui sont un peu à la mode chez nous en Europe. Sauf que eux, moi j'en ai des amphores géorgiennes. Sauf que eux, ils ont jamais arrêté d'en fabriquer des amphores. Donc ils savent, voilà.
Ils maîtrisent la
technique.
Ils maîtrisent. Donc
c'est pas une vinification, des trucs qui fuient, c'est pas des trucs qui donnent des goûts de terre. Et c'est enterré, hop. Ou dans leur jardin, selon les régions, ou dans des sortes de caves aussi. Donc c'est drôle parce que tu rentres dans une cave et c'est vide.
Ouais.
Il n'y a rien.
Tout est
dans le sol.
Voilà. Et l'intérêt de l'amphore, c'est, j'imagine, la micro-oxygénation que procure notamment l'argile ou la terre.
Voilà, c'est la micro-oxygénation. C'est aussi la micro-oxygénation, on peut l'avoir par le bois aussi. Mais le bois apporte des goûts que l'amphore n'apporte pas si elle est bien faite.
L'amphore est neutre, donc.
L'amphore est plutôt neutre. On a toujours un petit côté quand même, on peut avoir un petit côté terreux. Mm-hmm. Mais elles sont waxées avec de la cire d'abeille.
D'accord.
Ce qui, en plus, assure une certaine étanchéité. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant dans les amphores, c'est que c'est de la terre. Et la terre, c'est comme ce que connaît mieux le raisin. Mm-hmm. Donc il n'est pas brusqué par un matériau qu'il ne connaît pas. Et puis, il n'y a pas de cerclage, il n'y a pas de métal. C'est, enfin, voilà. Aujourd'hui, on estime un peu que c'est une mode, ces histoires d'amphores. Mais enfin, moi, j'en ai deux et c'est une cérémonie, c'est un bonheur de mettre des raisins là-dedans. Et on ne met pas n'importe quel raisin.
Il faut préciser encore une fois que vous êtes vigneronne. Hein,
oui, un petit peu.
En Val-de-Loire et vous faites des petites expériences avec des amphores géorgiennes.
Géorgiennes aussi, ouais.
Incroyable. Mmh. Quel vin vous nous avez rapporté, Sylvie ?
Alors donc, j'ai ramené le vin de John Vurdeman, qui est un Américain, un peintre, qui vend très bien ses tableaux, internationalement, qui a débarqué, qui a fait une école à Moscou, et qui est tombé amoureux de la culture géorgienne, et des polyphonies en particulier. Mm-hmm. Du coup, il a rencontré une chanteuse polyphonie, et elle s'est mariée avec. Donc il est resté coincé là-bas. Et puis, on lui a dit, tu défends la culture géorgienne. Ça, c'était après l'embargo. Parce qu'avant, tous les vins géorgiens allaient en Russie. Quasiment, c'est le grenier à vin de la Russie.
De la Russie, oui, de Vladimir Poutine.
Voilà. Ouais. Et puis, tout à coup, ils se sont retrouvés perdus et ils ne savaient plus quoi faire de leur vin. Donc, il fallait trouver. Voilà, on est venu voir John. Enfin, plein de vignerons sont venus voir John pour qu'ils s'occupent aussi de cette culture-là qui est dans leur sang, quoi.
C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez du vin Magnus Nilsson que Sylvie a versé dans votre verre? Il s'agit donc d'un vin blanc. Vous l'avez goûté?
Oui, j'ai goûté. En fait, c'est un vin qu'on a fabriqué sur la carte vin aussi.
Ouais. Donc vous êtes censé bien le connaître.
Voilà. Ouais. Donc c'est un vin qui...
C'est pas le même cépage sur votre carte.
Ouais. C'est un vin que j'aime vraiment beaucoup.
Ouais, qu'est-ce que vous pouvez donner à manger à vos invités avec ce type de vin? Quel pairing, quel accord vous faites?
Ça, sur le menu, je vais mettre ça au début du menu. Peut-être avec le Saint-Jacques ou avec un...
Maintenant, t'as un petit côté fumé aussi. Hein.
Oui, maintenant, on fait un morceau de cabillaud qui est cuit à la vapeur avec des branches d'épicéa.
Waouh!
Et ça, ça va très très bien avec ça.
Avec ses notes un peu résineuses. Parlez-nous de ce vin, il est incroyable quand même. Il est vraiment hors norme. Hein.
Il est hors norme. Alors, il faut savoir aussi que, bon, eux, ils ont pas abandonné. Ils ont une multiplicité de cépages. On dit qu'ils en ont plus de 500, mais ils en trouvent tous les jours des nouveaux, enfin, anciens cépages dans les bois. Et ça, c'est du chinuri. Et c'est un cépage qui est cultivé uniquement par 3 vignerons en Géorgie. Ça fait pas beaucoup de bouteilles. On a de la chance. Moi, je suis contente parce que ça ressemble au chenin de la Loire, mais bon.
C'est ça, hein, il y a un peu de ça, effectivement.
Ouais, il y a un peu de ça. Il y a l'équilibre un peu du chenin, ouais.
Quand on est en France et qu'on veut se frotter à ce genre d'expérience œnologique et goûter, par exemple, un vin géorgien, est-ce que maintenant on peut les trouver un peu plus facilement qu'avant?
On en trouve beaucoup plus facilement, surtout que ça intéresse, enfin, ces techniques anciennes et puis toute cette diversité, ça commence à intéresser beaucoup les consommateurs. Et alors, ce qui est drôle, c'est que ce vin-là, enfin les vins de John Vurdeman, ils sont importés par un vigneron français qui s'appelle Thierry Puzelard, qui est en Touraine.
Oui, bien sûr.
Voilà, qu'on connaît bien.
Claude Dubœuf.
Voilà, qui est tombé aussi amoureux des vins géorgiens.
Il les importe et les distribue comment?
Il les distribue avec ses vins.
Ah oui, simplement. Ouais,
facile.
Et quel budget pour s'offrir ce petit frisson exotique?
Arriver chez le caviste en France, 20 euros.
D'accord.
Donc c'est pas délirant vu les kilomètres qu'il a parcouru.
Et puis c'est pas tous les jours, on peut le faire, c'est tout à fait honnête. J'imagine que c'est des vins qui sont faits au naturel.
Complètement naturel. Ils connaissaient pas le soufre là-bas avant.
Voilà, donc ils souffraient même pas leur vin pour les stabiliser, c'est complètement naturel. Juste un mot, mais on en reparlera à l'occasion d'une émission que l'on va faire, Radio France Faites le Livre, puisque vous y participerez, Sylvie. Vous avez signé, je tiens à le signaler, avec Antoine Gerbel, qui s'occupe du service du vin dans cette émission également avec vous. Soif d'aujourd'hui, la compile des vins au naturel, 250 vignerons, 300 vins chez Tana Édition. Franchement, c'est pas parce que vous êtes notre chroniqueuse vin, il est formidable. C'est tous les vins qu'on aime. Des vins au naturel, des auteurs qui font des vins assez extraordinaires dans tous les vignobles de France.
Ouais, c'est des rencontres. Il y a beaucoup de photos, vous avez vu quoi. C'est plus que des vignerons, c'est des rencontres, des vrais gens.
Et une vraie plume aussi pour les décrire.
Merci.
Non, mais c'est vrai, franchement.
On aime parler du vin simple.
Ouais, certains textes sont même assez émouvants. Il y a beaucoup d'empathie et de communion avec les vignerons dont vous dressez le portrait.
Exactement. On sent la connivence que vous entretenez effectivement avec tous ces vignerons dans toute la France. On le recommande chaleureusement à nos auditeurs. La leçon de saumon Gravelax, ne rassurez-vous à la maison, elle arrive, promis, juste après la pause. Magnus nous apprend à le faire.
Empathy, thief. What to find, I keep. I was supposed to set an example, but I am a vandal. Yeah, the paper's nice, but it's the rush I like. You don't care about the money when you're an adrenaline junkie. Words will chain me after they let me loose and realize, or maybe they're all small crimes, but some things I just couldn't do. White lies, but some tales I just can't keep true. And if I gave it up, would I still be a thug? I don't choose to play the bad guy. He's in your bloodline. And I left my heart in a scrap metal yard. You don't get to be a human when you're a hooligan. Words will chain me after they let me loose and realize that maybe they are small crimes, but some things I just couldn't do. White lies, but some tales I just can't keep to. Small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just can't keep to. All my petty fee, what I find I keep. I was supposed to set an example, but I am a vandal.
Niloufer Yanya avec le titre Small Crimes. Pourquoi vous rigolez, Elvira?
Non, non, je rigole pas du tout.
C'est votre émission aujourd'hui?
Ah bah oui.
Vous êtes ravis, non?
Enchantée.
Depuis trois semaines, Elvira Masson me parle de cette émission sur la cuisine nordique avec Magnus Nilsson, son idole.
Non mais ça fait des années qu'on veut la faire cette émission.
Et Magnus Nilsson, idole de très nombreux gourmets dans le monde entier. La bonne nouvelle, c'est que vous avez sorti un livre très complet, très documentaire, presque ethnographique sur la cuisine des pays nordiques avec un travail incroyable. Combien de voyages en trois ans dans les pays nordiques?
Je sais pas, mais beaucoup. Beaucoup. J'ai visité tous les pays et toutes les régions de la région nordique, en fait.
Et c'est...
plusieurs fois.
C'est ça.
Mais je trouve même que trois ans, c'est pas beaucoup pour faire une telle somme.
Oui, mais vous avez fait un truc intelligent, c'est que je crois que vous avez lancé un sondage en ligne
ouais.
pour collecter des ouais. recettes ouais. dans tous les pays nordiques.
Oui. C'était un formulaire sur un site internet.
Les gens ça a bien marché?
J'ai vu beaucoup de recettes de harangues marinées qui étaient exactement pareilles. mais c'était intéressant de voir ce qu'ils pensent de son culture de cuisine même, les gens en fait.
Il y avait évidemment des recettes de saumon gravlax.
Ouais.
Petite question d'auditeur.
Justement, est-ce qu'on vous a posé cette question-là sur le site internet? C'est Sophie qui nous écrit. Je suis à la recherche d'une recette de mon grand-père suédois du Småland. Recette définitivement perdue, car elle n'a jamais été notée. Il s'agit de perche pochée. Alors perche, je crois qu'on dit, elle est abore.
Abore,
oui. Wow. De perche pochée dans un bouillon avec du beurre, de l'aneth, du vinaigre étika. Déguster tiède ou froid le lendemain. J'ai tenté des dizaines de fois de la reproduire sans jamais retrouver le goût original. Est-ce que Magnus Nilsson la connaîtrait ou aurait quelques conseils?
Oui, en fait, je connais très bien. Non, je connais très bien. En fait, dans le livre, c'est une recette pas pour perche, mais pour au saumon. Saumon poché et mariné froide. Et c'est en fait la même technique. Donc, juste substituer la perche pour.
Bonne nouvelle.
Et poisson poché dans un bouillon.
On va même aller jusqu'à lui communiquer cette recette. Hein, oui. Notre auditrice, comment
elle
s'appelle?
218, Sophie. On va lui envoyer la recette.
Très bien, Sophie.
Et ça se mange avec les pommes de terre. Magnus
va lui offrir et dédicacer son livre. Saumon, gravlax, nous y sommes. Gravlax, ça veut dire quoi?
En fait, gravlax, c'est peut-être un de les recettes de la région nordique qui est la plus connue.
Oui.
Et la plus ancienne aussi.
C'est vrai.
Et le nom gravlax, ça vient de la mot en suédois pour mettre en terre.
Lax, c'est saumon. Ouais. C'est-à-dire que gravlax, c'est saumon enterré.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est l'origine de la recette. Tout au début, c'était juste un morceau de saumon en terre. C'est ça. Pour faire préserver, en fait. Et ça a venu autre chose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un pièce de saumon mariné dans un mélange avec un tiers de sel et deux tiers de sucre.
C'est ça, le secret. On va raconter comment on s'y prend, justement. En quelles occasions, en Suède, mais également dans d'autres pays nordiques, puisque le saumon Gravlax, on le trouve également en Norvège.
Oui, mais c'est plutôt un recette suédoise.
Suédoise. Ouais. C'est une occasion festive ou c'est un plat que l'on peut manger tous les jours?
Toutes les occasions.
Toutes les occasions.
Anniversaire, Noël, Pâques.
On
veut un vendredi.
On veut la bonne recette pour la faire à la maison. Comment on fait? On commence par prendre des filets de saumon. Hein.
Oui, un filet entier, c'est le meilleur. Et on met ça dans
Avec la peau ou pas?
Avec la peau. Oui. Et on fait un mélange avec un tiers de sel et deux tiers de sucre. Oui. On met ça au-dessus de la chair avec des feuilles d'aneth.
Et pourquoi on ne peut pas prendre un saumon entier, tout simplement?
Parce que dans un saumon entier, on a des os aussi.
Des arêtes.
Des arêtes, oui.
Et c'est le mieux, compliqué. C'est de prendre donc des filets, de demander... on prend un saumon de qualité, évidemment. On évite certains saumons d'élevage intensif. On préfère des saumons... Soit sauvage.
C'est un peu difficile maintenant labellisé. Parce que le saumon sauvage, c'est très rare.
Mais au moins un saumon bien élevé.
Ouais.
On est d'accord. Biologique ou qui dit bonjour.
Et ça, ça commence d'être mieux maintenant avec l'élévation, pas dans le caisse en mer en fait. Mais
dans l'élevage est de meilleure qualité maintenant.
Ouais. 4 cuillères à soupe de sel, 4 cuillères à soupe de sucre pour 1 kg de filet de saumon, 20 grains de poivre blanc écrasé, un bouquet d'aneth. Et ensuite, on fait quoi? On masse ce saumon.
Et on laisse ça au frigo.
Combien de temps?
Ça peut prendre. Ça dépend un peu ce qu'on aime, mais moi j'aime bien de laisser mon saumon avec
le mélange.
Le mélange pendant 24 heures. 36 heures, un truc comme ça.
Au frigo.
Oui, au frigo.
Bien enveloppé dans un film ou dans un sac plastique, comment vous faites-vous?
Ouais, moi, je fais en fait sans ça. Parce que je trouve que ça vient un peu trop salé avec le sac.
D'accord.
Mais ça c'est une question.
Vous le laissez comme ça, ou même éventuellement, même pas un film alimentaire.
Ouais, juste.
Couvert.
Juste, ouvert comme ça.
Je pensais qu'il fallait l'écraser avec un poids. Il fallait mettre quelque
c'est
chose.
C'est beaucoup de gens qui font ça, mais ça fait aucune différence en fait.
Important, intéressant à dire.
Moi j'y croyais.
Et ensuite.
Tu le caresses et après tu l'écrases.
Mais c'est un process qui fait sécher un peu le saumon. Et c'est ça qui est important. C'est faire sécher un peu le saumon parce qu'il extracte de l'eau en fait.
Incroyable. Ouais. Et on peut aller jusqu'à 48 heures si on veut?
Si on veut, si on aime le saumon très salé.
Si on aime le saumon très salé, donc 24 heures c'est l'heure.
Mais les choses qui sont importantes, c'est après le 24 heures ou 36 heures, on va enlever tout la mélange. Mm-hmm. On laisse le saumon reposer pour encore 24 heures.
Est-ce qu'on a le droit de le goûter?
Oui.
Ah, bonne nouvelle, vous allez nous en couper quelques tranches, on va le déguster. Sylvie Augereau va nous donner son avis d'ailleurs. Et on va passer évidemment au dessert. Même si... Ah. Voilà, Magnus est en train de le déguster.
Mais Magnus, si le saumon est un peu trop salé, c'est pas très grave parce qu'il y a une sauce sucrée qui va avec.
C'est vrai parce que le saumon Gravlax, la sauce, on parle aussi de la sauce Gravlax.
Oui, donc la sauce Gravlax, c'est quelque chose qui est pas très ancienne. C'est quelque chose qu'on a ajouté dans le peut-être en 1950, un truc comme ça.
Oui.
Et c'est quelque chose qui beaucoup de monde aujourd'hui, c'est ils pensent en fait c'est la sauce qui est saumon Gravlax, mais c'est une sauce avec moutarde sucrée, ce qui va avec tous les poissons fumés, les poissons marinés, les choses comme ça.
C'est moutarde sucrée, dill, donc aneth, quoi d'autre?
Pas tout le temps, hein. C'est aussi si on a envie.
Le saumon Gravlax peut se suffire à lui-même visiblement comme ça, ou sinon on lui ajoute cette sauce aigre-douce qui est quand même délicieuse. On passe au dessert.
Mettez le couvert, on va déguster... Sur France Inter.
Elvie ?
Oui. En Suède, il y a une odeur. Quand on arrive, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez atterri où ?
J'ai fait deux vols en fait. Ouais. Je suis arrivé à Stockholm, mais ensuite j'ai fait un vol intérieur pour monter à 500 km au nord et un vol intérieur dans une ville qui s'appelle Åre.
Åre,
d'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas une odeur qui vous a étreinte ?
Mais évidemment.
Vous n'avez pas senti ?
Une odeur de café filtre.
Exactement. Une odeur de café. C'est pas l'odeur des cafés comme en Italie, où ça sent un peu la torréfaction, voire un peu le brûlé dans les cafés italiens. En Suède, dès que vous atterrissez à l'aéroport, où que vous alliez, dans les écoles, à l'hôpital, dans les lieux publics, partout, ça sent ce mélange, qui pour moi me signe que je suis en Suède, de café filtre avec des épices. Cette espèce de mélange un peu diffus, parce que des épices, on en parlait au début de l'émission, Magnus, on en trouve absolument partout. Ouais. On en consomme beaucoup, notamment dans les brioches, les sucreries, les roulés à la cannelle, mais aussi les pepa coco.
Peppa Croque, ce sont ces petits biscuits. Ouais, ces petits biscuits fins qui sont en quelque sorte, on pourrait dire, des spéculoos, si vous m'autorisez, Magnus, à la mode suédoise. Et effectivement, le parfum des épices est prégnant un peu partout dans la vie suédoise. Alors, il existe une version gâteau de ces Peppa Croque, qui ne sont pas que des biscuits. Il s'agit de ceci.
Mmh.
Oh. Le nom, c'est tout simplement Mjuk Peppa Croque, qui signifie gâteau moelleux aux épices. Vous faites une drôle de tête, François Régis. C'est parce que c'est bon ou au contraire, c'est pas bon?
Je trouve qu'on est entre les pâtisseries alsaciennes et le pain d'épices, en fait.
Oui, c'est ça. C'est bien vu. Alors, c'est une sorte de cake. Enfin, même le cake est pas le bon mot. Mais très moelleux, voire un peu, limite parfois un peu collant. Ouais. Moi, j'aime bien quand il est pas trop cuit. Évidemment, cette recette, je l'ai trouvée dans votre livre, Magnus. J'en ai toujours mangé dans une version qui est à peu près la même que celle que vous proposez. C'est celle de ma mère. Donc ma mère est d'accord avec vous pour ne pas mettre de
cardamome.
Bonjour
Eva Masson.
Alors étonnamment, il n'y a pas de cardamome. Et là, Magnus et ma mère, Eva, sont d'accord. Donc pas de cardamome dans le mélange d'épices, mais du clou de girofle en poudre, du gingembre en poudre et bien sûr de la cannelle. Évidemment la cannelle.
Beaucoup de cannelle.
Ouais. Vous écrivez qu'il est courant d'ajouter des érelles au sucre, alors que dans les îles Féroé, que vous citez également dans le livre, on ajoute des raisins secs. Moi, ma mère, elle met un peu de confiture d'érelle, mais on ne demandez pas pourquoi.
Dans la pâte à gâteau.
Voilà, dans la pâte à gâteau. Le gâteau comprend également un produit laitier. Idéalement du fil mjölk que je vous ai apporté, que j'ai trouvé à l'épicerie suédoise dans le 17e arrondissement.
De quoi s'agit-il?
Il faut m'aider là.
C'est un lait, c'est un peu comme un yaourt, mais le lactobacillus qui fait fermenter le lait, c'est différent. C'est un lactobacille qui fermente en température très bas.
D'accord.
Plus 8 ou 10 degrés.
C'est une sorte de lait fermenté, mais c'est donc...
C'est plutôt comme un yaourt, c'est un peu comme les yaourts
que vous
disiez à la
russe. C'est plus épais que le Lerigo breton.
Ouais.
Alors on peut mettre du fil mjölk, on peut mettre du gräddfil, qui est un dérivé de ça, ou du yaourt, ou de la crème fraîche. Vous mettez-vous de la crème fraîche dans la version qui est dans le livre?
Ça vient très français si on met de la crème fraîche.
Mais c'est ça. Je vous donne la recette rapide.
Oui, évidemment, il nous reste 2 minutes, mais vous avez le temps. Enfin, vous avez le temps.
100 grammes de beurre, 2 œufs, 100 grammes de sucre en poudre, 15 centilitres de lait fermenté ou crème fraîche, 180 grammes de farine, et après... On met un peu de poudre à lever, enfin de levure ou de bicarbonate de soude. Et les épices, c'est une cuillère à café de cannelle moulue, une cuillère à café de gingembre en poudre, une cuillère à café de clou de girofle moulu, et puis les érelles au sucre. Moi, j'ai mis 3 bonnes cuillères à soupe de confiture d'érelles. Grosso modo, on mélange tout. Je ne vous donne pas les étapes dans l'ordre. C'est un appareil à cake un peu.
Puis vous faites souvent les choses dans le désordre, non?
C'est un peu le problème.
Non, sans blaguer, il est absolument délicieux. On attend le verdict de Magnus Nilsson.
C'est très délicieux.
Vous dites ça pour faire plaisir à quelqu'un?
C'est comme à la maison. Hein.
Vous validez la recette?
Oui.
Parfait.
Ouf.
Mais c'est important, tu utilises le bicarbonate de soude.
J'en ai mis aussi un peu.
No baking powder.
Moi, j'ai mis quand même du baking powder.
Pas de levure. C'est important. Je voudrais à nouveau le nom de cette spécialité.
Mjuk Peppa Croque.
Encore une fois.
Mjuk Peppa Croque.
Bravo. Elle a un bon accent, hein, oui. J'ai l'impression. Bon.
Accent, t'as fait
ça. Ça ne sent pas le faux. Il y a une petite...
D'accord. Ça passe pas, là, le gâteau d'épices.
C'est les cannelles.
Il y a un dessert que vous nous avez apporté. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Vous avez une poignée de secondes pour en parler. Il s'agit du colostrum pudding. Qu'est-ce que le colostrum?
C'est le premier lait d'un vache ou d'un...
Le premier lait de la traite.
La mammifère.
Oui.
C'est ça.
Et c'est en fait, on prend le colostrum, on met un peu de sucre, on fait cuire ça au four. Et c'est très riche en protéines, donc ça vient un peu comme un flan ou un...
Une crème brûlée.
Un crème brûlée, un chose comme ça.
Vous allez adorer, François.
Ah non, mais je suis sûr.
C'est un côté fiadon.
On parlait du fiadon justement la semaine dernière dans une émission consacrée à la cuisine corse, le goût. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, c'est incroyable. Simplement, il faut trouver du colostrum quand même, c'est pas facile.
Non, il faut aller sur une ferme avec des vaches. Ça se vend pas au magasin, des choses comme ça.
C'est ça.
Ouais.
Bah, en tout cas, merci beaucoup Magnus Nilsson.
Merci beaucoup.
Cuisine des pays nordiques, le nouveau livre référence pour explorer les cuisines du nord de l'Europe, de l'Islande, de Danemark en passant par la Suède. C'est aux éditions Faidon, ça a très bien marché en anglais, je pense que ça va suivre le même chemin du succès en France, ça vient de paraître. Merci à Yann Gallic pour les voix françaises, à Pascal Fougère, même si effectivement vous voyez que son niveau de français était quand même incroyable.
Excellent. Merci.
Il avait peur, il voulait une traductrice, en fait tout s'est très bien passé. Magnus Nilsson, vous ferez également une conférence sur la cuisine nordique demain, lundi à 18h30 à l'Institut du Cordon Bleu.
Oui.
C'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site cordonbleu.edu. J'espère que beaucoup de gens viendront vous écouter dans un instant. C'est Question Politique avec Nicolas Demorand. La semaine prochaine, on va déguster Dresse le Couvert à 3 au menu. Chaours, andouillette et champagne. Au revoir Magnus Nilsson. Comment on dit au revoir en suédois?
Hey då. Tack så mycket.
Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir Sylvie, au revoir Elvira. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim.